l'aimait, tu comprends, comme on le dit bien, il n'a pas écrit, parce qu'il est très péraviologique. Il faut lire un vieil article de 1971 de Chamboredon, Revue française de sociologie. Il faut lire le papier de Flavini, qui ne figure pas dans mes éléments de biographie, et que je vous donne là, qui s'appelle Hubert Flavini, de la notion de psychopathie, dans la revue de neuropsychiatrie infantile, 1977, volume 25, numéro 1, page 19 à page 75.
En 83, il l'a fait dans la revue du Prat.
Comment ?
Il l'a fait dans la revue du praticien dans la...
Mais elle a aussi, en plus, ouais. Oui, peut-être.
Là,
il est gros, les papiers. Hein. Ouais. Ah bon, alors, dans le...
C'est de 83, le psychiatrie de la revue du Prat, le bureau de psychiatrie de 83.
Ah bon, d'accord. C'est un très bon article, très bon article. Et nous, ce qu'on a écrit un peu de psychologie, on n'en a jamais tellement écrit, mais je vous le recommande quand même. On a écrit un article, à vous, je ne sais pas si je vous l'ai donné dans la... Ben non, il ne figure pas non plus dans la bibliographie générale que je vous ai donnée. C'est Tom Dirige Fender, Drogue et psychothérapie au centre familial de jeunes déficients. Alors ça, c'est dans le bulletin de psychologie, tome 34, numéro 348, page 111-130. Je ne me rappelle pas que l'année n'est pas donnée ici, mais c'est vieux déjà, ça doit être 77 ou 18. Non, plus tard que ça, 80, quelque chose comme ça. Tu l'as revu cet article?
Vous avez lu l'année dernière,
je pense. Je vais bien le relire et qu'on ait discuté à Vitry parce que je l'ai relu là aujourd'hui. Je trouve qu'on a plutôt baissé le niveau intellectuel par rapport à l'époque qu'on a eu cet article. Je n'ai pas su dire ça. Bon, alors je pense qu'il faudra sûrement le distribuer et rappeler à l'équipe de Clécy cet article. Il faudra le répandre. Bon. Alors, réfléchissons un peu d'abord, brièvement, sur le temps historique. Alors là, vous connaissez le livre historique là-dessus, vous la surveillez et punir de Foucault, la folie à l'âge classique de Foucault, tout en sachant qu'il est très démagogue, en tout cas, à mon avis, et qu'il fait ça d'une certaine manière trop idéologique. Ensuite, il y a les livres. Ah oui, j'ai oublié que la délinquance juvénile, côté psychologique, il y a l'article de Eichhorn. Et là, il est dans la bibliographie, mais c'est pour notre sujet, c'est l'article de Eichhorn. Et puis, un livre intéressant de Foucault, qui se lit d'ailleurs en 2 heures, vous l'aurez lu, il est assez passionnant, c'est le fameux bouquin sur lequel on a fait des films, Moi, Pierre Rivière, qui ai tué ma mère et mes deux frères. Mais vous connaissez peut-être ce livre, bon, il faut le lire, c'est... Vous ne connaissez pas l'histoire de ce livre? Là, c'est fou, ce que l'écriture psychiatre manque totalement de culture en sciences humaines. Vous êtes vraiment bon à faire de la psychiatrie biologique, c'est plus dans le monde. Comment?
On va se révolter, je dis.
J'arrive pas à penser comment vous n'avez pas pu lire ce genre de bouquin. En plus, on s'est dit comme un roman policier, après tout comme une dame, d'accord, mais il faut quand même l'avoir lu, ne serait-ce que pour pouvoir l'écrire. Bon, alors avant de faire les cours, je vais vous raconter l'histoire de ces livres, qui est quand même très passionnante, et qui permettra de vous faire comprendre d'une manière vivante et un peu amusante. Comment Michel Foucault a vu l'entrée dans la psychiatrie, dans l'ordre de la criminalité, et les débuts de l'article 69, etc. Pierre Rivière, c'était un flou, triste flou, de la prairie Normandie, Et puis, il avait des problèmes familiaux tels qu'on le voit aujourd'hui. Il les avait déjà à l'époque, ça existait chez les Ploucs, c'est-à-dire que sa maman était un peu volage, une belle femme. Elle copifiait plus ou moins son papa. Et son papa était bien mignon, mais un peu con, un peu plus un peu lourdeau. La maman un peu Flaubert, et il avait deux autres frères. Et alors, elle jouait un peu sa madame Bovary, de très bas niveau, un peu analphabète quand même. Et puis elle copifiait, puis elle n'était pas une bonne femme dans le style moral et religieux de l'époque. Elle ressemblait plus à un féministe actuel, bien sûr, mais ça c'était une notion qu'il ne pouvait pas percevoir en 1830. Et alors, Pierre Rivière, qui était taciturne, un peu bizarre, un peu étrange comme gars, il aimait beaucoup son papa, et puis sa maman, il l'aimait peut-être aussi, mais d'un amour édipien qui à l'époque ne pouvait pas être verbalisé non plus, parce que Freud n'est pas passé par là. Et alors, un beau jour, il en avait marre, et il a tué d'une manière très très méchante, il a coupé en petits morceaux sa maman, et puis il en a fait pareil à ses deux petits frères qui traînaient par là pour qu'ils ne racontent pas l'histoire. Et par la suite, il a fui, bien sûr, et il a traîné dans la forêt pendant une bonne quinzaine de jours, comme un animal sauvage, à l'époque c'était à la mode, et puis il était pris par les gendarmes. Et il était mis en prison à Paris, il devait être jugé. À l'époque, il faut que vous sachiez bien, à Paris, ça c'est très important pour comprendre l'atmosphère, il y avait en moyenne une exécution capitale par jour. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas quand ils parlent des relations de psychiatrie et de la criminalité, ils oublient ce fait qu'il y avait à peu près entre 400 et 400 exécutions capitales par an, rien que dans la bonne ville de Paris. Et ça, Foucault passe son temps à l'oublier aussi. Vous allez voir pour cela une chose. Donc, pour une affaire comme ça, il va être guillotiné, quoi. Il va être tué. C'était la moindre de politesse. Guillotiner les gens pour des vols, pour des cambriolages. Alors, un meurtre comme ça, tuer sa mère, c'est vraiment rien de plus haut. C'est Pierre Rivière, le temps que ça dure, les procès et tout, c'était quand même long. Il a commencé à écrire des mémoires. Ah, il a écrit ses mémoires.
Ça, il avait quel âge?
Oh, il avait dans les 22 ans à peu près. Il n'était pas vieux, 19 ou 20 ans. C'est vrai, ta question est très pertinente. J'étais encore il sortait de la. C'était un jeune adulte marginal. Aujourd'hui, on aurait dit schizophrénie simple. Alors, il a donc écrit ses mémoires où il a décrit tout ça très gentiment, pourquoi il a tué sa maman et ses deux frères. Et puis il y avait quelqu'un qui s'est occupé de lui parce qu'il s'est repenti et il a trouvé bizarre et tout. Bref, l'affaire est montée jusqu'au grand Esquirol. Et Esquirol s'était emparé du jeune Rivière, il l'a examiné et il a dit, ben voilà, cet homme est atteint de ce que j'avais décrit dans mes gros ouvrages, à savoir de la monomanie homicide. Et puisqu'il est atteint de la monomanie homicide, on ne peut pas les guillotiner, ce ne serait pas juste, on ne peut pas les juger, il était fou. Ce qui a arrangé une partie de l'opinion publique, parce que ça paraissait vraiment dur à admettre qu'un homme normal puisse faire un crime aussi méchant, tuer sa maman et ses deux petits frères. Alors là-dessus, l'opinion publique s'est divisée en deux, et c'est très bien décrit dans le bouquin, et une partie disait que Pierre Rivière était un salopard, un criminel, et qu'il mérite mille fois la mort, et que c'est dommage que les tortures aient été abolies, c'était beaucoup mieux avant, on aurait déchiré sur la roue, etc., il méritait tout ça, et puis l'autre partie de l'opinion de la paix, c'est Esquirol en disant, si nous, non, Pierre Rivière va dans notre société humaine et humaniste, ça s'est passé sous Louis-Philippe qui était à ce moment-là monté au, trop sur le trône à la suite d'une révolution, donc très humaniste, très libéral, contre les horreurs de l'ancien régime, et donc on n'a pas le droit de guillotiner un pauvre malade. Et puis finalement, c'est Esquirol qui a gagné, et il était condamné à mort, certes, mais le roi Louis-Philippe l'a gracié. C'était la bataille pour avoir la grâce royale, et Louis-Philippe l'a gracié. On l'a foutu à Boutôle parce qu'il n'y avait pas encore les hôpitaux psychiatriques. Et là, il s'est fait justice lui-même. Il s'est pendu, je crois, 6 mois après, il est mort, on n'en parle plus. 6 mois ou 1 an après, il s'est pendu. Alors Foucault, il présente ça d'une manière que je trouve parfaitement odieuse, en disant finalement que il n'est dit rien, c'est toujours le style de Foucault, tout en allusion, en laisse croire, etc. Ce que voudrait faire Foucault, c'est qu'on les libère avec félicitations de jour. Un peu ce qu'on a fait avec Althusser. Et en disant que finalement, il a très bien agi parce que sa mère était une salope, faut pas oublier que Foucault est homosexuel, que Dieu lui pardonne, vu que donc, était plutôt genre macho, il n'aimait pas spécialement les femmes. Donc sa mère était tellement salope que c'était la moindre de politesse de l'avoir tuée. Et le pauvre fou, les petits frères, il les a tués, c'était vraiment menu bétail. Et c'est pas de sa faute, quoi. Donc il fallait les libérer. Et il présente l'affaire de cette manière, que cette rivière devient un vrai héros du roman, super sympa comme personnage, et il se trouve devant une alternative atroce, ou bien il est fou, ou bien il est criminel. Et il présente Esquirol et tous les clans des psychiatres modernistes de l'époque, parce que c'était eux qui étaient modernistes à l'époque, comme des mecs qui cherchent à prendre le pouvoir contre la justice. Et ils disent qu'ils ont gagné, et il dit que dans l'affaire de Pierre Rivière, elle a servi après pour l'article 38, pour la loi 38. Ça, il a raison, Foucault, que ce genre d'affaires ont permis de faire la loi de 1838, parce qu'il permet d'enfermer les gens avant qu'ils ne commettent un délit. Est-ce que vous me saisissez là? Parce que c'est la loi, il est dangereux pour lui-même et pour les autres. Et même ça voulait donc dire que cette crise de Rivière, Esquirol et les autres ont dit, notre science psychiatrique actuellement est assez forte que nous pouvons prévoir que ça va être un fou dangereux et nous le foutons à l'hôpital psychiatrique qui est un lieu de soins moraux, parce que ça s'appelle traitement moral, et nous allons sauver les mecs et tout. Et Esquirol disait tout le temps, si je l'avais vu plus tôt, il n'aurait jamais tué sa mère. C'est tout à fait faux, parce que les psychiatres n'ont jamais empêché personne de tuer sa maman, ou si on a vraiment envie de tuer sa maman. Et alors, mais c'est ce qu'il disait à l'époque. Alors ça montre bien que la psychiatrie est entrée dans la criminalité, dans le monde du crime, sous un aspect humaniste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, tous ceux, parmi mes amis du syndicat des jeunes psychiatres et tout, auxquels je cotise quand même, gueulent contre la loi, contre l'article 64, gueulent contre les hôpitaux de France, gueulent contre cette place que la psychiatrie fait. Ils oublient un peu trop souvent, après Foucault, que cet humanisme de la psychiatrie est un humanisme sincère. Esquirol était ce qu'on appellerait aujourd'hui un homme de gauche. Esquirol n'aurait jamais voté Le Pen, il aurait voté Mitterrand, c'est évident. Si Pinel, c'était peut-être un peu plus double, mais Pinel était quand même révolutionnaire, il faisait partie de la Convention, et tous ces mecs-là étaient des hommes de gauche. Esquirol s'accoquinait avec les mecs qui étaient sur les barricades pendant les Trois Glorieuses, alors, ils n'étaient pas du tout réactionnaires. Et c'est donc ces gens-là qui ont, en gros, fabriqué la loi 38, l'article 64, maintenant 20 ans plus tard, où les psychiatres devenaient chaque fois plus réactionnaires, parce que la méthode progressiste réussissait pas, ils ne guérissaient pas les malades. Alors donc, ils sont entrés à ce moment-là. Avant, sous l'ancien régime, il n'y avait pas de différence entre le fou et le criminel, il n'y avait pas de différence parce qu'on les enfermait tous de la même manière. Certains avaient été guillotinés, d'autres étaient enfermés, qui à la Salpêtrière, qui à 17. Il n'y avait pas une telle différence en prison, hôpital. Donc les diagnostics différentiels n'étaient pas très importants. c'est qu'il faut dire que dans cet ancien régime, ce qui gouvernait, c'est la religion chrétienne, et la religion chrétienne, pas n'importe laquelle, c'est telle qu'elle était faite par saint Thomas d'Aquin. Et rappelez-vous, ceux d'entre vous qui ont une certaine culture philosophique, encore c'est très rare chez les psychologues d'aujourd'hui, qu'il y avait des jansénistes qui, eux, n'y croyaient pas. Des jansénistes qui ressemblent à nos psychiatres biologiques actuels, ils disaient que l'être humain n'est qu'un jouet des, eux ils disaient, d'un déterminisme. Aujourd'hui, Changeux dit qu'il est un jouet de ses neurones, mais en tout cas, pour les jansénistes, il n'y avait pas de responsabilité parce qu'il n'y avait pas de liberté. Mais ça, ce n'était pas du tout la version officielle dans le monde chrétien occidental. La version occidentale officielle était la version thomiste, la version de saint Thomas d'Aquin, c'est que le Seigneur, dans sa bonté, a donné ses cadeaux empoisonnés à l'être, à l'homme, c'est-à-dire la liberté. La liberté égale responsabilité, égale punition quand on fait des bêtises. Donc, ces gens-là, qu'ils étaient déments, qu'ils étaient fous, qu'ils étaient tout ce qu'on veut, quand ils ont tué quelqu'un, ben, c'était normal de les punir. Et on les punissait, rappelez-vous, il y avait toujours les croutons dans les exécutions capitales, il y avait du croûton. Nous, ça nous fait rigoler aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout rigolo, c'était au contraire. Je suis sûr que tous ces braves gens qu'on coupait en morceaux, qu'on torturait, qu'on fusillait, le croûton leur faisait sûrement du bien, parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans le système, c'était pas des révolutionnaires, c'était des déviants, mais qui croyaient dans ces valeurs. Et qu'est-ce qu'ils lui disaient les curés? Les curés lui disaient, tu étais libre, Dieu t'a donné la liberté, tu t'en es mal servi, tu seras puni, tu seras tué, tu seras fusillé, pendu, décapité, tout ce qu'on veut, mais je te pardonne parce que Dieu est miséricordieux, et une fois mort, tu iras quand même au paradis grâce au piston que je te donne. Ce qui est évidemment pas si cruel que ça. Ce qui est important, c'est quand nous écoutons nos gauchos actuels, nos jeunes psychiatres qui gueulent contre l'article 64, si on leur disait qu'ils sont parfaitement thomistes comme les religieux d'ancien régime, ils pousseraient de hauts cris. Mais en fait, c'est ça. Quand Ferraton, que j'avais défendu au procès de Arras, Ferraton, quand il disait « je préfère qu'on me coupe la tête plutôt que retourner à l'hôpital psychiatrique », Ferraton parlait comme s'il avait lu saint Thomas d'Aquin. Il a dit, vous tous, monsieur le juge, le procureur et tout, vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas m'enlever mon libre arbitre. Moi, j'étais responsable de mon crime, je ne suis pas dément, je ne suis pas fou, l'article 64, foutez-vous où vous voulez. Ça, c'était la ligne de défense de Ferraton, il a écrit un bouquin là-dessus, très amusant, c'est le copain gaucho qu'on aurait écrit à sa place, mais en tout cas, il a signé. Et finalement, il a gagné parce qu'on ne l'a pas mis à l'hôpital psychiatrique, on ne lui a pas coupé tête, il était quand même condamné à, grâce à mon intervention géniale, il s'en est tiré avec plusieurs avis, ce qui est quand même un gros monstre. Et il est toujours en taule, mais il se porte comme un chat. Et alors, sous l'ancien régime, c'était la liberté, la responsabilité, donc la punition. Et puis une fois la punition faite, le pardon venait après la mort, représenté par les curés. Maintenant, l'entrée de la psychiatrie dans la délinquance et dans la criminalité peut être envisagée sous plusieurs angles. A posteriori, on peut dire l'angle scientifique. C'est que le modèle religieux ne pouvait plus expliquer les choses. Les gens du début du 19e siècle, qui étaient donc les bourgeois, les athées, qui ne voulaient plus croire ni en Dieu, et surtout qui ne voulaient plus croire que le modèle religieux explique l'action des gens. C'était Darwin bientôt qui apparaît, Lamarck, tous ces gens-là, c'était les victoires de la biologie, de la mécanique, et le modèle religieux s'est cassé la gueule. Et bien là, il fallait inventer un nouveau déterminisme. Et rappelez-vous que c'était en 1802, c'est-à-dire 2 ans avant que Napoléon prenne la couronne de l'empereur, il était encore premier consul, 10 ans après les soldats de l'an 2, que M. Cabanis, qui est un homme de gauche, il en fut, a écrit cette phrase géniale, réécrite par Changeux 180 ans plus tard, d'une manière plus raffinée, le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la vie. Le genre, quand vous lisez ça, on a l'impression que c'est moderne, la psychiatrie biologique, mais ce n'est pas du tout moderne, c'est né à ce moment-là où on donne une explication tout à fait mécaniciste, biologique de toute la psychiatrie et de toute la psychologie avec des hommes comme Cabanis. Eh bien, si le cerveau sécrète la bile, et donc si le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, eh bien de la même manière, il sécrète la pensée criminelle. Donc on est criminel parce qu'on a un cerveau criminel, on n'est donc pas responsable, on est malade, on a un cerveau malade. Et ça c'est la base scientifique telle qu'elle était vue par les gens de l'époque pour que les psychiatres puissent foutre leur nez dans le problème de la délinquance. Ça voulait dire au niveau scientifique ce que je vous dis, il n'y a plus de libre arbitre, on est déterminé, on a un cerveau malade qui nous pousse à tuer. On a tout de suite trouvé des thèmes, parce que ça, les psychiatres, même s'ils n'étaient pas fins pour comprendre les choses, ils étaient toujours très forts pour donner les noms et les étiquettes. Alors, Esquirol crée la monomanie homicide, qui est vraiment le criminel à l'état pur, et on dit bien monomanie, ça veut dire que par ailleurs, il est tout à fait normal, il n'est pas dissocié, dirait-on aujourd'hui, il n'est pas délirant, dirait-on aujourd'hui, il ne fait que tuer sans qu'on sache pourquoi. Donc, c'est un monomaniaque homicide. Et puis les Anglais un peu plus fins que Esquirol, c'était Tuck qui crée les termes de moral insanity. Moral insanity qui va être en ligne droite l'ancêtre d'un autre psychopathe sur lequel je veux vous parler beaucoup, duquel je veux vous parler beaucoup aujourd'hui. Alors le moral insanity, c'est exactement l'idiot du point de vue moral. Les idiots dont on parlait à ce moment-là, de gens comme Esquirol, Pinel, vous rappelez, ils ont fait la différence entre les démons et l'idiot. L'idiot, c'est celui qui était pauvre à la naissance, à qui on n'a pas donné beaucoup de facultés intellectuelles. Et bien, de la même manière, le moral insane était celui à qui on a donné les mêmes facultés intellectuelles qu'à vous et à moi, mais on ne lui a pas donné des facultés morales. Parce qu'un être normal, il a normalement, et sans religion et sans bon Dieu, il a normalement des facultés intellectuelles et normalement des facultés morales. Vous voyez donc, ils ont abandonné la religion dans sa forme, ils ont abandonné saint Thomas d'Aquin, mais ils n'ont pas du tout abandonné ce que le pape dit aujourd'hui, c'est-à-dire que morale et naturelle, c'est la même chose. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Il disait que c'est la nature humaine, c'est d'avoir une morale. Et cette idée que la nature humaine est d'avoir une morale, c'est une idée qui, une fois sortie de saint Thomas d'Aquin, est née en même temps que le mécanicisme, et elle persiste aujourd'hui dans l'esprit populaire à 100% et chez nos amis les catholiques à 150%. Et quand le pape dit que ce n'est pas naturel de tromper son mari, de tromper sa femme, ça il est du moins parce qu'il en fait tout de même quand il était jeune, et bien quand le pape dit des choses pareilles, il défend tout à fait cet ordre de choses, que ce qui est naturel, c'est d'être moral. Freud, après, va venir 100 ans plus tard, et il va dire que nous avons tous un surmoi, et c'est donc naturel d'avoir un surmoi. Ceux qui n'ont pas de surmoi, c'est déjà, ils sont pas, ils sont un peu comme la nature, c'est une forme de maladie. Eh bien, on trouve déjà ce type d'explication dans le thème de moral insanity, et c'est très amusant que, entre Pinel et Binet, il y a 100 ans, c'est-à-dire pour mesurer ses capitales d'intelligence avec les QI, il a fallu 100 ans. Pour mesurer les capitales de la moralité, il a fallu 150 ans, parce que c'est maintenant que M. Pichot et ses compagnons font des échelles de comportement, des échelles de moralité, des échelles de dangerosité, etc. Où on commence à mesurer ces histoire que la morale c'est aussi quelque chose de peut-être quantifiable, en tout cas que vous et moi nous l'avons dans notre tête, et ces salopards qui tuent et qui volent, ils n'ont pas. Alors le problème, quand vous avez bien pigé ça, l'histoire de Pierre Rivière va vous apparaître beaucoup plus normale. que ceux qui voulaient lui couper la tête, c'était les tétonistes, des symptômes d'Aken, il est responsable, il faut lui couper la tête. Ce qu'il est défendu avec Esquirol, il est défendu donc au nom de ce fait que pour être immoral, il faut être malade. Et voilà notre psychopathie qui est née. Alors ça, c'est donc le point de vue scientifique. Le point de vue humanisation de mœurs, c'est sûr que c'est là que ce que je reproche à Foucault, qui n'en parle pas du tout et qui voit, il a une vision tout le temps méchante de ce monde bourgeois du 19e siècle, alors qu'il oublie qu'au début, il y avait qu'à l'époque, les mœurs judiciaires étaient quand même extrêmement barbares. Les tortures étaient finies depuis 100 ans à peine. On torturait encore Jean Calas en 1770, c'était il n'y a pas si vieux que ça. Les derniers bûchers, c'était il y a 100 ans à peine. Et alors là, on ne les torturait plus depuis la Révolution française, c'était la peine de torture. Mais la peine capitale, c'était pour un oui, pour un non, vous passiez à la guillotine. Et c'est évident que dans les vécus des maîtres qui pouvaient passer par la psychiatrie, par les futurs articles 64, bah, c'était quand même plus rigolo, même d'aller en tôle, que de se faire couper la tête. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la plupart des criminels, maintenant la peine de mort est abolie, ils demandent quand même de profiter de la grâce et tout. Ils savent bien que la grâce égale pour eux la prison à vie, mais mettez-vous dans. Tant qu'on n'est pas concerné, on s'est dit, oh là là, vivre en prison toute la vie, autant mourir, on dit ça dans l'abstrait. Quand on vous dit, rester en prison toute sa vie, vous allez voir la tête coupée dans 15 jours, les gens changent beaucoup d'avis. Et la plupart des gens, à l'époque, je dis, ils vivaient la psychiatrie et les futurs articles 64 comme une manière de se sauver, ça les sauver de la mort.
Mais c'est curieux qu'après, ils se suicident, non?
Pierre Rivière s'est suicidé, mais la plupart se sont pas suicidés.
Pierre Rivière,
c'est vrai, vous avez raison. Pierre Rivière s'est suicidé parce qu'il était vraiment même, quoi, c'est tout. Il n'était pas psychopathe, il était schizophrène, je crois que c'est ça le vrai problème pour Pierre Rivière. Tel comme on lit son papier, on voit que c'était un peu un schizo génial, intelligent, un petit schizo. Mais quand vous lisez Pierre Rivière avec votre diagnostic, votre grille diagnostic actuel, vous ne direz jamais que c'était un psychopathe. Pierre Rivière, c'était un schizo. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Puis il avait des remords, dites quand même, tuer sa mère. Saloperie, hein, pour un bon chrétien, pour un plus normal du début du 19e siècle. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes gens qui tuent leur papa, leur maman, ils se portent très bien après parce que les mœurs sont changées. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait bien vu, mais quand même, le poids du reproche n'est pas si mauvais. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, j'ai lu un travail, je ne me rappelle plus de qui il était publié dans la revue Neuropsychiatrie Infantile, mais je n'ai pas de. Je ne peux pas vous donner la référence précise, mais ça remonte à 69, quelque chose dans cette date-là. C'était des journées de pédopsychiatrie qui se tenaient à Strasbourg et il y avait donc le contrat. Il y a un numéro spécial de la revue qui remonte à 69, quelque 68 ou 70, je ne me rappelle plus quand. En 68, c'était les journées de Briançon. C'est là que le train était arrêté par la grève, je me suis bien marré. Et Strasbourg, c'était avant Briançon ou après? C'était avant, je crois. C'était en 67. Oui, c'était en 67, les journées de Strasbourg. Et c'était là, il y avait un article très intéressant, je vous le recommande à ceux qui s'intéressent, qui raconte ce que deviennent les matricides et les patricides, les jeunes gens qui ont tué leurs parents. Et bien, c'est dingue ce que c'est qu'un bon pronostic. Pas pour les parents, bien sûr, mais pour les autres. Eh bien, ils ont presque tous tiré, aucun n'a sombré, presque, il y a très peu qui ont sombré dans la folie comme Pierre Rivière, et puis les autres, bon, ils étaient soignés, ils sont pas mal tirés. Il y a un médecin de Sarreguemines qui a fait cette étude, et il est allé recueillir à Cadillac, à Sarreguemines, dans tous ces hôpitaux de force à travers la France où ils étaient internés. Et il a fait un article qui m'a beaucoup amusé à l'époque, une communication. Mais au début du 19e siècle, le poids du crime était plus fort. Donc il y avait la guillotine et c'était la mode où les principes de dent pour dent, œil pour œil commençaient à être supprimés et c'est une certaine mansuétude qui apparaît. Et alors, l'article 64 est donc le couronnement de ce système et puis il apparaît. Il sauve la tête des gens, mais il les fout à la, et il les fout à l'hôpital à la place des prisons. Pour Foucault, c'est le point de vue absolument inverse. C'est tout ça, c'était qu'une bataille de pouvoir entre le médical et le judiciaire, et si ces types ont sauvé leur tête, c'est plutôt pour montrer la force du corps médical et l'enfoncement du corps judiciaire. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de tout ça, des expertises, j'en parlais parce que ça est loin de notre personnalité psychopathique juvénile. Mais on pourrait en parler après dans la discussion. Et je pense que à peu près à ce moment-là qu'apparaît ces termes. Qui s'appelle pervers ou psychopathe, avec Lombroso, etc. Et c'est de ce terme des psychopathes que je voudrais vous entretenir aujourd'hui, comment il s'applique à nos garçons jeunes délinquants. Ce terme des psychopathes est donc né de la moral insanity des Anglais, de la monomanie homicide. Il était très vite élargi vers les voleurs, les cambrioleurs, les violeurs, les exhibitionnistes. Il a changé de nom plusieurs fois et en France, il a été très bien défini. Celui qui a vraiment couronné cette œuvre, c'était Dupré, avec le pervers congénital. Alors, avant de vous faire ce topo, il faut que je m'explique un peu personnellement. Que j'ai toujours beaucoup de difficultés d'en parler. J'avais fait au moins 2 conférences publiques à ce sujet qui étaient très merdiques et qui m'ont beaucoup fait du mal à mon artiste. Parce que ce n'était pas des conférences avec quelques jeunes étudiants comme vous, c'était des conférences publiques dans des lieux très huppés où on m'attendait au tournant et je me suis complètement enfoncé, je n'étais pas heureux du tout. Et j'ai réfléchi pourquoi je me suis tellement enfoncé, c'est qu'il fallait analyser cet échec, parce que je suis plutôt un assez bon conférencier, et c'était 2 fois sur ce sujet auquel je tenais tellement, où j'ai fait quoi. Et je m'en suis vraiment tiré la première fois seulement il y a un an. Alors je répéterai aujourd'hui un peu ce que j'ai dit il y a un an au Maroc. C'est que j'allais au Maroc pour pouvoir parler de ce sujet d'une manière, pour avoir su maîtriser le sujet prendre la distance. Et bien finalement, j'étais pas net dans ma tête. C'était dans ma tête que tout ça, c'était pas net. C'était pas net parce que j'ai haïssé très profondément tous les psychiatres classiques qui servaient du terme psychopathe. Et la haine n'est pas bon conseiller quand on veut faire la science et l'enseignement. Je l'ai haïssé pour une série de raisons personnelles, idéologiques, politiques, c'est comme ça. Donc, vu que je l'ai détesté, j'ai considéré que tout ce qu'il dit, c'est de la connerie. Et je disais, les psychopathes, ça n'existait pas, c'est une invention de tous ces psychiatres classiques. Si vous voulez, Caution, mai 68, Cochot, tout ça, ça n'existait pas, ce n'est qu'une image de la société. Alors, j'avais cette position en théorie, et puis en pratique, qu'est-ce que je voyais, puisque je travaille beaucoup avec ces jeunes, et bien, c'est que ce n'était pas complètement faux. Et que ce qu'il décrivait, quand je regardais ce que faisait ce jeune, bah, c'est sûr que ça collait. Ça collait d'une certaine façon, et que la description qu'il donnait, nous allons voir après, là nous couvrons tout à l'heure une analyse plus poussée, n'était pas complètement fausse si on se place du point de vue des behavioristes, si on se place du point de vue de celui qui les regarde, qui les observe. Donc, je m'enfonçais tout le temps dedans parce que je voulais être honnête. Alors je disais qu'ils ne sont pas psychopathes, que ça n'existait pas. Et puis je constatais que ça existait quand même. Alors je ne savais pas mentir, comment m'en tirer. Alors j'ai fini par défendre une position un peu, qui n'était pas complètement idiote, mais qui n'avait pas de force intellectuelle et idéologique, qu'il devenait psychopathe. On devient psychopathe avec l'âge. Ce n'est pas complètement faux, mais ça ne permet pas de s'en tirer. Et je suis arrivé à m'en tirer le jour où j'ai pris les thèmes d'abandonnisme, le jour où j'ai lu les bouquins de comment elle s'appelait la fille qui a fait Germaine Gueux, le jour où j'ai lu cet article de mon ami Flavigny, que je trouvais vraiment très très fort, plus je le relis, plus je le trouve fort et intelligent, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a écrit, j'ai l'impression qu'il a écrit beaucoup plus généralement que j'aurais pu le faire, il s'en est tiré très 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 bien. Et alors j'ai fini par comprendre que quelque chose existe. Quelque chose existe, et dire que ces garçons ou ces filles sont comme vous et moi, c'est pas vrai. Il existe un profil psychologique comportemental de jeunes gens que l'on appelle psychopathe, délinquant juvénile, etc. Mais ce profil d'abord, c'est pas celui, il n'a pas les bases de principe, il n'est pas basé sur ce qui paraissait les fonds, les socles du profil au psychiatre classique. C'est-à-dire, un, c'est pas congénital, deux, c'est pas irréversible, trois, c'est, ils sont pas inaffectifs. Alors que la triade de Dupré, c'est congénital, irréversible et inaffectif, et bien cette triade-là, elle est fausse. Et nous allons voir dans la discussion combien chacun de ces termes sur lesquels nous reviendrons n'est pas vrai. Et puis ici, au lieu de les appeler psychopathes ou pervers, on les appelle abandonniques, et bien on s'approchera beaucoup plus de la réalité. Et puis maintenant, quand j'ai touché ça, et bien je suis devenu capable de faire de l'enseignement sans me gêner pour parler de ça. Bon, j'en ai fini avec mon problème qu'on transférence. Regardons maintenant les dangers du terme psychopathe. Pourquoi c'est un thème qu'il faut quand même, à mon avis, utiliser qu'avec beaucoup de prudence et même plutôt ne pas l'utiliser du tout comme un conseil Flavigny. Ben, les dangers sont très graves. D'abord, et les faiblesses du terme sont très graves. D'abord, confusion psychopathe et pervers. Ça, vous savez quand même qu'il y a, dans la langue française, il y a là un truc qui est la vraie attrape-couillon sémantique pour faire des glissements dans la tête des braves gens comme ça. C'est que il y a deux mots abstraits qui se réunissent en un seul mot concret. Je m'explique et vous allez voir. Il y a perversité, il y a perversion, et ça se réunit, le monsieur qui est atteint de l'un ou de l'autre, il va s'appeler toujours le pervers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ça que j'appelle la trappe-couillon sémantique de la perversité. Comment ? Alors que si vous réfléchissez, ces gens-là se ressemblent très très peu parce que la perversion, c'est quoi? La perversion, c'est l'homosexualité, c'est le fétichisme, c'est le voyeurisme, c'est l'exhibitionnisme, c'est tout ce qu'on veut du niveau sexuel et libidinal. Et la seule perversion qui peut donner la perversité, ce sera le sadisme. Et encore, c'est très différent de gens comme chez les marquis de Sade, ça ne coupe pas les rues, et aucun des garçons que j'ai vus ne correspondait aux descriptions du divin marquis. Et alors donc, que quand vous traitez un gosse de pervers, ou même un jeune adulte, ça veut donc dire qu'il pue, et qu'il a sexuellement quelque chose qui ne va pas, et aussi qu'il est immoral. Parce qu'en fait, les deux choses, le commun dénominateur de la perversion et de la perversité, vous ne les trouvez ni dans la psychologie, ni dans la psychanalyse, ni dans les vécus intrinsèques de l'individu, ni même dans son comportement. Vous les trouver dans un tout autre ordre de référence, à savoir dans l'ordre de référence morale et judiciaire. C'est que les pervers, perversité et pervers perversion, ils ignorent la loi, ils risquent de se retrouver en taule et ils choquent notre morale. Et c'est ça qui est amusant, qu'à Vincennes, les psychanalystes de Vincennes, là, les bébés à Lacan, là, et bien, maintenant Vincennes c'est Saint-Denis bien sûr, dans le département des psychanalystes de l'université Paris 8, ils ne parlaient que de ça. Vu que c'était tous des pervers, c'est évident, mais pervers dans le sens perversité, non, dans le sens perversion plutôt, c'était tous des pervers. Et bien, à Vincennes, je me rappelle, j'étais quand même fort, j'ai vécu 8 ans là-bas, si vous voulez faire la cour à une nana, il fallait se montrer pervers. Parce que les gens non pervers, c'était des troupes de gens pas baisables, pas érotiques, pas amusants. Vraiment, on avait une cote très basse. Et quand j'avais l'heure, encore c'était il y a 10-12 ans, de plaire à une micro-nénette étudiante, le plus beau compliment qu'elle était foutue de me faire, il est donc qu'un pervers. Donc j'ai voulu de Pologne si mon papa écoutait ça. Alors donc, et ce n'était pas du tout une injure, c'était un compliment. Donc pour, si vous êtes riche, si vous êtes professeur, si vous êtes intellectuel de la rive gauche, être pervers, ça ne vous amène pas en taule, au contraire, ça vous permet de forniquer avec le jeune, ça vous valorise au niveau universitaire, et c'est très bon. Maintenant, si vous êtes pauvre, si vous êtes sorti d'un milieu bas, si vous ne savez pas déguiser votre perversité avec de belles paroles, et si vous faites des passages à l'acte, non pas sexuel, mais plutôt, si vous portez atteinte à la propriété ou à la vie des autres, des violences et du vandalisme, et bien là, vous n'êtes pas drôle du tout, vous trouvez en taule, vous trouvez dans une maison de redressement, et tous ces beaux esprits vous regardons de très haut, en citant alors Freud qui disait que tous ces mecs-là, il faut les foutre en prison. Il ne faut surtout pas les soigner. Nous y arrivons tout à l'heure en parlant de la psychanalyse par rapport à ces deux formes de perversité, mais en attendant, sachez que ce qui distingue ce qui. Ah ben si, puisqu'on en est, on peut déjà les discuter, les diagnostics différentiels. Eh bien, les diagnostics différentiels est quand même très important. Du point de vue psychanalytique, déjà, la perversité, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est toujours à lui-même semblable, il est parfaitement résistant à toute psychothérapie. Vous savez très bien que c'est l'échec total de toutes les écoles psychanalytiques. C'est un échec que Freud a parfaitement vu, compris et prévu en disant qu'il ne faut pas psychanalyser ces gens-là. Il disait plus méchamment qu'il faut les mettre en prison. Il n'était pas très gentil, il était très bourgeois, il avait un esprit très fou, Freud. Mais en tout cas, il disait qu'il ne faut pas les psychanalyser. Je n'ai jamais vu un type qui guérit dans le sens homosexuel devenu hétérosexuel après une psychanalyse, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un voyeur, un exhibitionniste cesser d'être exhibitionniste par la psychanalyse. Bref, Freud disait deux que c'est l'envers de la névrose, mais c'était dit dans le sens ferme du mot, c'est-à-dire que la névrose c'est soignable, la perversité c'est pas soignable. Alors, qu'est-ce que les pervers? Les pervers, perversité, comment? Ça, c'était pour pervers, perversion, les sexuels, si vous voulez. Alors que les pervers psychopathes, comme ça, vous comprendrez mieux, les pervers psychopathes, surtout quand il est jeune, bah, il bouge tout le temps. Tantôt il est gentil, tantôt il est méchant. Selon les milieux où il se trouve, il peut rester très longtemps sans faire les cons, et après il fera les cons de nouveau. Ça, tout le monde le sait. Même les adultes, quand on les met dans un milieu très chouette, ils peuvent rester un an sans faire le moindre signe de psychopathie, et après ils se démerdent pour les faire quand même, nous verrons comment. Mais ils sont extrêmement variables. Je ne dis pas s'ils sont accessibles à la psychothérapie psychanalytique, mais à Eichhorn et nous à Vitry, nous avons montré qu'ils sont quand même accessibles à une certaine forme de psychothérapie non violente et vraiment psychothérapie. Tu veux dire quelque chose?
Non.
Je faisais déjà désespéré. je pense que le pervers sexuel a une libido très structurée. La perversité, la perversion sexuelle est une perversion de la libido, et en général, quand nous le voyons, elle est parfaitement structurée. Moi, ce qui m'a frappé dans mes connaissances, dans ma pratique de garçons marginaux, que ceux qui avaient une perversité sexuelle, une perversion sexuelle, tout ce qu'on a fait pour eux, c'était zéro. Ils sont toujours restés homosexuels, ou ce qu'on a vu, c'était des gosses qui étaient un peu victimes de pédophiles, et pas n'importe qui n'est pas victime de pédophiles parce qu'ils étaient consentants, et qui se retrouvaient homosexuels à 13 ans, 14 ans. Et bien on a fait ce qu'on a pu pour eux, et ils sont toujours restés homosexuels. Ils nous aiment beaucoup quand même, parce qu'on leur a permis de mieux s'adapter à la vie, etc. On avait un qui était pédophile. Eh bien, il a réussi très bien à sublimer sa pédophilie, mais il est toujours resté assez pédophile, il ne le montre pas trop, mais il est toujours pédophile. J'ai eu deux pédophiles dans ma clientèle privée, c'est à l'hôpital, papa à Vitry. Ils ont tous les, ils étaient de bons milieux bourgeois intellectuels. Ils ont subi chacun, en plus de ma psychothérapie à la pompe, ils ont subi chacun des années de psychanalyse lacanienne, de l'institut et tout. Maintenant, ils ont tous mobile, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Flavigny ici, quand vous le verrez, qu'en fait, c'est une structure en creux, que c'est une absence de structure. Ensuite, du point de vue épidémiologique, on n'a pas fait d'études, j'en ai pas fait, mais ça crève les yeux, que la perversion sexuelle, elle est répartie très également dans les classes sociales. Il y a peut-être des petites différences, mais en fait, on le trouve aussi bien chez les prolos que chez les bourgeois, chez les intellectuels que chez les commerçants. En fait, on ne sait pas d'où ça vient, mais on le trouve, c'est socialement bien réparti. Alors que notre psychopathie, surtout juvénile, elle n'est pas du tout répartie à égalité. On en a beaucoup plus dans les classes pauvres de la société, dans les prolétariats, dans les quarts-mondes, les tiers-mondes, tout ce qu'on veut. La psychopathie, nous en reparlerons, elle est complètement déterminée par la vie politique et sociale de la nation. On en voit beaucoup quand il y a une urbanisation forcenée, on en voit beaucoup quand il y a la colonisation, la décolonisation, alors que les perversions sexuelles sont relativement peu influencées par tous ces aléas politiques et historiques. Parce que regardez, prenez un pays comme le Cuba, ils ont fait, après la révolution, Fidel Castro, il devait avoir tellement d'homosexualité latente qu'il ne pouvait pas kiffer les homos. Il a appliqué pendant des années une politique complètement démente contre les homosexuels. Ça n'a rien changé du tout. Vous ne l'avez pas même pas con. Il a arrêté. Maintenant, il me fiche à peu près la paix un peu jusqu'à vous. En tout cas, alors il y avait des homosexuels dans les régimes fascistes, il y en a autant dans les régimes castristes. Il y en a moins dans les pays slaves, pour des raisons probablement culturelles, mais culturelles très très anciennes, très très vieilles. Il y a souvent des différences d'un pays à l'autre, si vous prenez les nombres, les pourcentages de ces perversions sexuelles. Mais ce n'est pas des pourcentages qui changent tous les 10, 15 ou 20 ans, comme c'est le cas des psychopathies, qui sont vraiment parallèles aux fluctuations de la vie politique et sociale. Alors que les différences épidémiologiques dans l'épidémiologie des perversions sexuelles, à mon avis, dépendent de facteurs extrêmement profonds que je suis absolument incapable de juger, que certains diront que c'est biologique, je n'y crois pas, mais donc c'est culturel, ça dépend de la structure familiale, etc. Vous voulez dire quelque chose?
Comment ça s'explique que ce facteur culturel?
Comment?
Comment ça s'explique que ce facteur culturel dans la minorité?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit ça comme ça en l'air, je n'en sais que dalle. C'est peut-être qu'il y a même plus de répression dans ces pays que. Je ne sais pas. Je suis complètement inapte à vous donner une réponse intelligente. ceux d'entre vous que ces problèmes intéressent, donc à lire des verreux, ne trouvons pas de réponse non plus, mais trouvons un discours beaucoup plus beau que les miens. Pour lire des verreux là-dessus. Comment?
Vous avez parlé des statistiques en Suède, par exemple, c'est très précis, c'est des choses très précises, très exactes.
Oui, mais ils ne font pas des statistiques, ils avaient. Mais oui, mais il n'y a qu'en Suède qu'il y a des statistiques, en Pologne, il n'y en a pas. C'est trop honteux, trop caché. Tout ce que je peux vous dire, qu'en Pologne, qu'il y avait le régime catholique, qu'il y avait le régime soi-disant socialiste, ça n'a rien changé. Et il y en a quand même moins qu'en Allemagne, parce qu'en Pologne, on dit que les Allemands sont tous homosexuels. Donc ça prouve qu'ils sont plus souvent homosexuels en Allemagne qu'en Pologne. Alors j'ai de gros trucs comme ça, comme la bestialité, la bestialité, c'est quand même très, très sociogène. Parce qu'on trouve bien la bestialité chez les citadins. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de bêtes.
Si, il y a plein de chiens,
non? Comment?
Il y a plein de chiens dans la vie.
J'en ai connu un comme ça qui était atteint de bestialité, mais je n'étais pas encore psychiatre à l'époque, alors ça m'a tellement amusé, je n'ai pas réfléchi. C'était un bon petit bourgeois qui habitait solitairement avec son chien rue de Rome, donc vraiment très citadin, en face de la gare Saint-Lazare, et on s'est aperçu de ses mœurs curieuses le jour où il est mort, parce que le chien, après une connerie, lui a sectionné les pénis en érection, il a fait une grosse hémorragie, il a mouru. À la grande joie de tous les commerces du quartier, c'était vraiment la joie dans le quartier qu'on avait notre bestialité. J'ai quand même deux cas très exceptionnels, et lui c'était un cas de bestialité citadine, urbaine, avec un petit coucou. Alors que la bestialité est beaucoup plus fréquente, avec des quadrupèdes plus grands, les ovins et les caprins, dans les milieux où là elle est très très liée à la sexologie, quoi. Parce qu'il y a des pattes, des chèvres, des pilards, des petites bananas. Quand il raconte des histoires là-dessus, très intéressantes, je ne sais pas si vous les connaissez, qu'il prétend, mais je ne crois pas que ce soit vrai, mais dans certains milieux très rétrograde et très clouc à l'ancienne, il y a des voix qui coulent comme ça dans la sagesse populaire illégale, qui sortent par des plaisanteries, et Freud nous a bien montré que la plaisanterie, c'est quand même l'inconscient qui parle. Ils prétendent, certains, que des paniquants intellectuels, c'est plus des analphabètes, c'est pas des gens comme nous, que la bestialité donne à un jeune homme beaucoup plus de plaisir que le rapport avec une femme de la même espèce humaine que nous. Et on raconte cette histoire que d'un pape comme ça, qui devait se marier, et le beau-père lui a donné une chèvre comme dot. Et le frère qui a vu la chèvre, il n'a plus de l'ismaille. Et ça, ça fait partie de l'humour. C'était pas ça vient de chez toi, la chèvre. Comment c'est dans le Midi qu'on raconte ça dans Provence.
Comme le film de Woody Allen.
Comment?
Comme le film de Woody Allen, où il tombe amoureux de son mouton. Il fait les psychanalystes, il tombe amoureux de son mouton.
Ah bon?
C'est le patient qui amène le mouton, il dit, monsieur, je suis amoureux de mon mouton. Bon, venez me voir. Il dit Alain, on est votre mouton. Et lui, il donne le rôle du mouton. D'ailleurs, le garçon.
Ah bon. Je sais pas si vous c'est la même chose réduite par les juifs de New York qui sont des super citadins. C'est très loin de Woody Allen et assez flouque de la Haute-Provence. Hein. Ouais. Bref. Donc. La psychopathie est donc mobile avec le mouvement des classes politiques, économiques, elle se voit beaucoup plus dans les classes pauvres. Voyons maintenant d'autres raisons pour lesquelles l'utilisation du terme psychopathe et pervers n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que, sur le plan scientifique, et nous allons voir ça en détail aujourd'hui ou dans 15 jours, elle mélange des traits psychologiques intrinsèques avec des traits de comportement associés. Je ne sais pas si je m'explique bien, il y a dans cette définition du psychopathe, telle que les classiques nous l'ont envoyé, un mélange permanent et tellement subreptice qu'on ne se rend pas compte si on ne l'a pas analysé mot à mot, des termes qui viennent des deux ordres de référence. c'est-à-dire des thèmes psychologisants, je ne dis même pas psychologiques, j'ai des psychologisants, qui prétendent donner la structure du bonhomme ou de la bonne femme, et des thèmes qui sont carrément juridiques et moraux. Plutôt que vous l'expliquer d'une manière savante, je vais vous le dire d'une manière très vivante. Quand j'étais encore jeune chef des cliniques et brillant, j'allais gagner sa croûte. C'était épris d'amitié pour moi un monsieur qui est mort depuis, qui était docteur Préau, pour ne pas le nommer, il n'est peut-être même pas mort, hein, il est très gâteux et retraité, et qui était à l'époque directeur d'une des premières écoles d'éducateurs en France. Très important. Ce que je veux dire, c'était donc qu'il préparait de jeunes gens et de jeunes filles au diplôme d'éducateur spécialisé, donc ceux qui devaient s'occuper des difficultés. Et moi, je devais leur faire des cours de psychopathologie. C'était donc le prof des psychos. Seulement, le grand problème, c'est que j'avais les titres de mes cours étaient préfabriqués. C'est pas moi qui avais le droit de les choisir, c'était la période, ça remonte en 62-64, c'est pas si vieux. Et bien, devinez quels étaient les cours. Et bien, je devais faire des cours sur l'enfant menteur, l'enfant voleur, l'enfant lambin, joli mot, vieux français. C'était pas paresseux, c'était pas costard, c'était lambin. Mettez pour moi, je prenais mon pied avec des termes aussi beaux de la belle langue française. Je devais faire donc mon cours sur l'enfant lambin, l'enfant mythomane, bien sûr, et donc la sous-forme clinique mythomane pervers. Voyez, on retrouvait les pervers. Bref, toute l'éducation que recevaient les éducateurs, les juges des enfants, les psychologues, c'était ça. Donc, ces psychopathes, c'était quelque chose d'extrêmement figé. Et on disait qu'on basait toute la structure du gosse, ou plutôt tous les discours sur la structure psychologique du gosse, elle était basée sur ses activités et centrée sur l'activité qui relevait du juge, l'éducateur et du pédagogue. Est-ce que là vous comprenez? Et je les ai gardés ces cours d'ailleurs parce qu'ils ont été... Ils ont été polycopiés, je les ai, si tu demandes à Michel, je les ai retrouvés récemment en fouillant dans mes vieux papiers, et c'est très amusant comment, sans m'en rendre compte, parce qu'à l'époque je ne me rendais pas tellement bien compte, je ne voyais pas les choses aussi clairement qu'aujourd'hui, comment j'arrivais à subvertir et à leur vendre à ce jeune une camelote qui était déjà mai 68 avant la lettre, dans un cadre qui était complètement classique et qui était tout entier basé sur cette psychopathie avec ses différentes variantes, psychopathe menteur, psychopathe voleur, psychopathe mythomane, psychopathe hystérique, psychopathe tout ce qu'on veut. Hein. Donc, il y a là une espèce de mystification où on mélange le dedans et le dehors, le comportement et le vécu, une structure psychologique qu'on voudrait expliquer, on fait semblant de l'expliquer, alors qu'on est donc un tableau cinématographique du comportement. Deuxième danger, c'est le danger des figés. Et c'est sûr que tout ce qu'on dit sur les étiquettes, c'est extrêmement grave ici, en ce qui concerne l'étiquette du psychopathe. Parce que quand on filait sur un gosse le terme psychopathe, même si c'était dans son dossier, maintenant ça se fait plus bien sûr moins, et bien ce thème, lui, collé à la peau comme une chemise d'un Essus, et partout on savait qu'il faut se méfier de lui, qu'il faut le tenir ferme, etc. Et alors que filer cette étiquette à un gosse de 12 ans, 13 ans, 14 ans, complètement délirant, alors que tout le monde sait que l'adolescence, c'est précisément la période de remaniement où les jeux ne sont pas faits, où c'est encore très mobile et très changeant. Et que tout le monde sait, et ça, Vladimir nous l'a dit, il n'y a pas que moi, que ces gosses ont une sensibilité des mimosas par rapport au milieu qui les entoure, alors quand on les figé avec ce type d'étiquette à base, à prétention, même très sec, et psychologique et structurelle, et bien c'était leur faire un grand mal. Troisième danger des psychologisés, voire des biologisés, le social et le politique. Et c'est évident que ces jeunes, il y a beaucoup plus de psychopathes quand il y a du chômage, il y a beaucoup plus de psychopathes quand il y a l'urbanisation forcée, et au lieu de chercher des méthodes de prévention à base d'urbanistique, à base de sociologie, à base de politique de santé, eh bien on les enferme et on les rejette sur eux. Ça c'est un problème qui est extrêmement brûlant dans des pays comme l'Algérie, dans tous les pays en voie de développement, qui voient une grande montée de cette jeunesse asociale, de cette délinquance juvénile, et lorsqu'ils prennent nos modèles de psychopathie, eh bien, ils les traitent, et on n'est pas trop sévère avec eux, on les enferme. Moi, j'ai visité des maisons au Maroc, c'est vraiment des prisons pour gosses effroyables, et ce sont des prisons pour gosses à base de... à base de ces théories psychopathiques, et ils ne se posent pas du tout des questions, que ce sont tous comme par hasard des gosses des paysans pauvres, des gosses des paysans sans terre, des gosses des paysans qui ont été obligés d'immigrer dans les villes et qui se retrouvent au chômage, etc. etc. Et aujourd'hui, ce gosse, il avait peut-être des psychopathes comme vous et moi, c'était vraiment des pauvres gosses de flou, et alors une fois qu'on leur a collé l'étiquette, que leurs troubles sont intrinsèques et psychologiques, et même ça justifie absolument un régime de prison, un régime militaire, il fallait les voir à table, ils n'avaient pas le droit de parler, ils marchaient toujours en un à deux, bref, c'était une vie complètement délirante, et ils étaient vraiment méchants avec eux, puis on leur tapait sur la gueule, ça. Je ne dis pas ça. Au passé, c'est présent, parce que j'ai visité ces maisons il y a 5 mois, quoi. Parce qu'en général, ils ne montent jamais aux étrangers. Il paraît que j'étais le premier étranger depuis 3 ans à qui ils ont permis de visiter ces maisons. Ils ne m'ont pas permis de parler avec les gamins. Ils n'avaient jamais pu rencontrer un gamin. Pas zéro. Je les voyais de loin, un peu comme on voit les animaux, mais au moins j'ai pu visiter les lieux et tout. J'en ai visité 3 maisons comme ça. Et en Maroc, vous savez qu'elle avait enculé gosses souvent quand il y a des manifestations, les pieds dessus. Et je suis sûr que parmi ces gosses, il y avait pas mal qui avaient comme seul crime d'avoir participé il y a 3 mois, 3 mois plutôt, à une des manifestations contre le régime et tout. Donc c'était très amusant. Donc danger de psychologiser les sociales et les politiques, voire même de les biologiser si on admet les théories de Dupré. Et c'est sûr que les pays en voie de développement, tout comme la France du 19e siècle, forment un véritable laboratoire pour ça. Si ça vous intéresse, si vous aimez lire de la bonne littérature, il y a ma fille qui est en train de lire, je me dis qu'il faudrait donner lire ça à des psychiatres, il faut lire Olivier Christ. Vous l'avez lu? Ah non, mais ce n'est pas complètement débile. Eh bien, réviser Olivier Cuisse et réviser-le en vous posant des questions. Quelle était la grandeur et l'intelligence du père Dickens d'avoir au 19e siècle, en pleine théorie biologique, avoir osé écrire un livre comme Olivier Cuisse, qui est tout à fait écrit comme s'il avait lu Bobby, Freud et les carences affectives. Et c'est ça là qu'on voit le génie de ces mecs comme Dickens qui allait complètement contre-courant à l'époque et qui lui ne se laissait pas couillonner, il ne disait pas que c'est des psychopathes ces gosses. Il disait bien que c'est le régime qui les fait, que c'est la misère qui les provoque, successif, dans un langage de l'époque, puritain, religieux, tout ce qu'on veut. Mais si vous réduisez au Christ, vous verrez que Dickens c'était un monsieur qui était beaucoup plus moderne que Dupré ou que Magnan, et que Zola. Parce que Zola, lui, s'est complètement laissé avoir par des théories biologiques. Vous savez ça.
Oui, l'hérédité alcoolique et tout ça.
Ben oui, Zola était complètement... Zola, il était admirateur de Morel et de Magnan, et tous les sites de Rougon-Macquart. C'est le roman de la psychiatrie biologique et héréditaire. Et c'est marrant qu'il était génial, il était homme de gauche, comme Tazo ou les débiles, quoi, qui était membre du Parti communiste, et que c'est normal que dans la classe ouvrière, il y a des débuts de logique, parce que ils n'étaient pas débuts, ils s'étaient pas oubliés. Et alors, Zola était un homme de gauche, vous le savez très bien, refusant et tout, et bien, dans sa politique, il était complètement sous les positions de la psychiatrie réactionnaire. Alors que Dickens, qui n'était pas du tout homme de gauche, qui était un bon petit pépère religieux, quaker et puritain, et bien sur ce plan précis, parce qu'il avait une âme sensible à la souffrance des mouvements, il a développé des thèses complètement modernes sur la carence affective. À l'opposé, dans les thèmes à l'opposé de ces dangers des psychologisés et des biologisés, je pense qu'il y a un danger des sociologisés et des politisés. Et ce danger, il faut l'éviter aussi. Et ça, c'est les dangers de gens comme Champboredon, comme Michel Foucault et comme certains gauchos de Vincennes. Pourquoi? Parce que dans la mesure où nous les psys, nous ne sommes pas payés pour changer le monde, nous sommes payés pour diminuer la souffrance des gens qui sont autour de nous. Eh bien, c'est sûr que ces psychopathes, ces jeunes délinquants juvéniles, si nous nous contentons uniquement de l'explication politique qui explique très bien au niveau macroscopique pourquoi il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans, pourquoi il y en a moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais même elle n'explique pas du tout les cas individuels. Et nous, les psys, nous avons affaire avec les individus. On n'est pas urbaniste, on n'est pas membre du gouvernement, on est psy. Et c'est sûr que les thèses purement sociologiques et purement politiques sont des thèses qui nient notre... qui nient pas dans ce que nous avons de mauvais, c'est-à-dire étiqueter les gens et les trancholes, mais aussi c'est dans ce que nous avons de bon, c'est-à-dire essayer de comprendre un cas individuel et essayer de l'aider. Et c'est sûr que ces thèses politiques et biologiques sont parfaitement incapables d'expliquer pourquoi sur 100 gosses de bidonville, il n'y a que 20 psychopathes et 80 ne les sont pas. Alors là, zéro, ils devraient les tous, or ils ne les sont pas. Et là, c'est sûr que ceux qui deviennent ou qui ne deviennent pas psychopathes, eh bien ça, on ne peut le comprendre qu'en étudiant leur histoire individuelle, leur histoire familiale. Et, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau macroscopique, l'industrialisation, l'urbanisation, les PVD sont une négation des théories biologiques, ni les théories biologiques, et montrent l'importance des facteurs sociaux et politiques. De la même manière, la bande à Soulé, dans le 14e arrondissement, aidée par des gens des INSEM, ont fait une étude qui n'est pas complètement idiote et qui montre que dans ces troubles caractériels des gosses, etc., au-delà des facteurs sociaux et politiques, il y a quand même chaque fois les facteurs dissociation familiale, des facteurs atmosphère familiale, relation objectale si on veut, abandon, bref. Pour comprendre un cas individuel, la politique et la sociologie ne suffisent. Et quand nous voyons les gosses déficués, ils ne nous parlent pas de sociologie, ils ne nous parlent pas de politique, ils nous parlent de papa, maman, caca, ils parlent d'un langage de Freud, ces gosses. Et dans leur vécu est un vécu psychologique, et eux, ils se vivent comme des êtres psychologiques et pas du tout comme des pions politiques. Et je pense que là, les dangers de la politique pure est aussi grand que les dangers de Jean-Pierre Changeux avec ses neurones et sa biologie, c'est-à-dire que les deux oublient complètement, scotomisent l'individu dans sa subjectivité et dans son unicité. Et dans la mesure où nous pouvons espérer les aider autrement que par des médicaments, les leucotomies, ou autrement qu'en changeant le monde, eh bien, il ne faut pas se laisser entraîner ni dans l'une ni dans l'autre de ces déviations. Déviations, c'est un milieu. Ni dans l'une de ces visions totalitaires du monde. La cinquième raison pour laquelle il ne faut pas utiliser le mot psychopathe, c'est que, mais je vous l'ai dit déjà, que cette confusion du moral, du judiciaire, du compte transféré de la science, c'est évident que, alors là, ça se voit très bien quand vous lisez les expertises. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des expertises, c'est complètement raté. Taper les Bergers par terre, si ce n'était pas Titus. On voit vraiment un langage payant, à prétention scientifique, qui démolit un être humain et qui explique uniquement les psychomètres, et encore même pas les psychomètres de l'expert, et encore dans beaucoup de cas, il se donne même pas la peine de faire du psychomètre. Ils lisent les dossiers faits par l'assistante sociale, la psychologue ou les flics, ils transcrivent ces dossiers dans le jargon psychobotanique ou pseudo-parascientifique, et tout le monde est content. Alors ça, il n'y a rien de plus mystifiant que l'expertise psychiatrique. Là, je sais, je suis entré dedans quand je dis ça par les experts, nous à le voir, et je l'ai dit devant eux, je l'ai dit à l'évolution psychiatrique ou à quelqu'un d'expert, hein, c'est une mystification parce que la justice fait appel à la science. Or, les sciences, on n'en a pas beaucoup. Et nous, on somme, on transfère et on les déguise en science. Et ce serait beaucoup mieux qu'on m'écrive, ce mec-là, il me paraît un salaud irréversible, foutez-le en taule. Bah, si on avait dit ça, on ne pourrait pas se payer 600 francs. Alors, pour justifier les 1000 balles des honoraires, pour un quart d'heure d'examen, il faut faire pondre un papier de 5 pages où il n'y a que du jargon et des généralités. Et c'est sûr que ces expertises sont précisément la base de cette terminologie des psychopathes. Bon, la raison 6, c'était la confusion psychopathe pervers, pervers sexuel, etc. C'est sûr que la psychanalyse, elle a apporté un peu quelque chose dans cette compréhension de la psychopathie, mais d'une manière qui est toujours pas très claire. Je vous dis donc pour Freud, Freud lui faisait assez mal la différence entre les pervers sexuels et les pervers psychopathes. Il faisait mal la différence, pourquoi? Parce que c'était là deux catégories de gens qui l'intéressaient absolument. En plus, il ne pouvait pas les dire. Et je lis des pages de lui, je lui disais qu'il faut les foutre en prison, bah, c'est quand même assez clair. Hein? Il était toujours pour l'ordre, Freud, pour la société, et il ne pouvait vraiment pas aimer du tout ce genre. Les premiers qui s'y intéressaient d'une manière vraiment... qui a appliqué les idées freudiennes à ce genre de gosses, c'est Eichhorn. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà d'Eichhorn ou non. Non. Mais on va vous parler d'Eichhorn, c'est capital. Alors Eichhorn était premièrement socialiste. À l'époque, mais pas socialiste à la fin du siècle, il était socialiste. À l'époque où ça comportait encore des barricades, la bagarre. Il était donc socialiste. Il était instituteur de son métier et il était psychanalysé par Freud, ce qui est quand même une chose assez exceptionnelle à l'époque. Il était donc un des tout premiers de la première génération de ceux, dans qui connaissent un peu l'histoire du freudisme, seront connaissant les mots, c'est qu'en allemand on les appelait les laïcs, ce qui se traduit en français par les laïcs. Freud a fait laïc tous ceux qui étaient psychanalysés sans être médecins. Et c'était tout le temps le grand problème pour lui, à qu'on voit des psychanalystes si on n'est pas médecin, etc. Ici, le patron, là, Albi, il vient de pondre un petit bouquin mignon sur un de ses laïcs qui était Théodore Reck, R.U.K., un des tout premiers non-médecins qui était donc membre de la société psychanalyse. Mais lui, il était psychologue. Alors, Eichhorn, il était encore plus con qu'un psychologue, il n'était qu'instituteur. Et pourtant, Freud a accepté, premièrement, de les psychanalyser, et deuxièmement, il a accepté que Eichhorn soit un des gamins. Et alors, Eichhorn s'est trouvé à la tête d'une maison pour jeunes délinquants. Et là, il faut quand même parler un peu de politique. C'était en 1920. Et en 1920, en Autriche, c'était la défaite, la grippe espagnole, c'est-à-dire une épidémie à très haute mortalité, et la, l'inflation effroyable et la famine à l'état. Il y avait une telle crise que les gens, par exemple, crevaient de faim dans cette ville impériale, liée, la balle, c'est la même patata. Eh bien, il n'y a pas de doute que ça a monté en flèche la délinquance juvénile, raisons politiques, etc. Eh bien, vu que c'était un gouvernement de gauche, démocratique et tout, on a dit on ne va pas les foutre en prison, on va essayer un traitement un peu humain. Et plus on met un psychanalyste pour s'occuper d'eux, un type qui se disait psychanalyste, qui se réclamait à la fois de Freud et de Marx, c'était il était socialiste et psychanalyste, et il a ouvert cette maison pour jeunes. Et il a écrit un bouquin qui a attendu 40 ans pour être traduit en français, alors maintenant il est traduit, et je vous l'ai mis en numéro 1 dans ma bibliographie, c'est le... Ça s'appelle Jeunesse à l'abandon. Il était traduit en français en 73. Moi, je l'ai lu en allemand, vous voyez. C'est-à-dire, il a mis 53 ans pour se traduire en français. Et dans cette maison, dans son bouquin, Eichhorn, il parle presque pas de politique. Il dit que c'est le pauvre gosse, c'est à peu près tout. Et puis, il raconte comment il applique les théories de Freud pour resocialiser ses gamins. Et il découvre un truc, je crois que c'est le premier qui les découvre, et c'est là qu'il est assez génial, il découvre la notion du surmoi cruel. Il dit, comme ça, quand on les regarde apparemment, ils n'ont aucun surmoi, c'est comme là, parce qu'ils sont immoraux. Quand on les voit de dehors, on voit qu'ils sont immoraux parce qu'ils volent, parce qu'ils n'aiment pas les filles, parce qu'ils sont grossiers, vandales et tout, et on les traduit tout de suite mécaniquement en langage psychanalytique, vu qu'ils n'ont pas de morale, donc ils n'ont pas de surmoi, et le tour est joué. Eh bien, Eichhorn, il a, qui est beaucoup plus faible, il dit c'est pas vrai du tout, il dit c'est quand même, ils ont un surmoi tellement cruel qu'ils ont besoin tout le temps de se faire punir. Et si nous les punissons, nous entrons dans leur jeu. Et la seule technique pour essayer d'éviter la répétition du cercle vicieux, punition, délation, punition, passage à l'acte, c'est d'arrêter les punitions. Et il envoie des interprétations semblables à sa gueule, et il est puni très très peu. Le livre est vraiment très passionnant. Tout en maintenant une discipline beaucoup plus faible que nous. Tu as lu le livre
Pas entièrement.
Que nous on a fait à l'étude. Et bien donc, pour Eichhorn, c'était le surmoi cruel. Pour les psychanalystes les plus cons, c'était l'absence du surmoi. Pour d'autres, alors, pour des gens comme Fritz Reiner, par exemple, qui était 40 ans plus tard, un psychologue viennois aussi, qui a foutu le camp d'Autriche à cause du nazisme, et qui s'est retrouvé aux États-Unis un peu comme Bethlehem. Seulement, il a fait, lui, il a ouvert une maison pour enfants comme ça, il a écrit ses livres, que je vous recommande aussi, je ne sais pas si j'en parle dans ma bibliographie, mais non, qui a déjà 15 ans en français, il s'appelle L'enfant agressif, je ne sais pas si vous l'avez lu, et qui est, donc le titre anglais est beaucoup plus beau et beaucoup plus vrai, et c'était le surton des éditions Fleurus qui l'ont réussi, c'est Children Who Hate, qui est beaucoup plus fort, c'est des enfants qui haïssent. Children Who Hate, ça c'est le titre original, et vu que c'est traduit Fleurus, et Fleurus c'est l'évêché, ils n'ont pas osé sortir un titre aussi violent, alors ils ont traduit ça enfant agressif, beaucoup plus universitaire. Le livre est à la fois génial et débile. Il est génial parce que, je me rappelle quand je l'ai lu, j'avais des oreilles qui frétillaient de plaisir, parce que ça changeait complètement des descriptions que je connaissais à l'époque, à la Dupré, à la Michaud, qui étaient des descriptions à la fois moralisantes et très générales. Et dans ces livres, ils donnent des descriptions détaillées d'une manière fantastique. Il y a vraiment la sémiologie du mouflet caractériel en institution qui est absolument extraordinaire, avec chaque fois l'analyse du compte transfert de l'éducateur, pourquoi on a envie de lui casser la gueule, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Donc, de ce point de vue-là, le livre est génial comme un livre, disons, c'est l'entomologie du jeune délinquant. L'entomologie, vous voyez, comprendre avec les fourmis, il a vécu ses gosses. Ça, c'est le côté génial. Ce qui est dégueulasse, odieux et débile dans ces livres, c'est que d'abord, ils étaient 15 psychologues, autant d'éducateurs. Je crois qu'il y avait une équipe à peu près de 30 adultes grassement payés pour s'occuper des 10 gosses âgés de 9 à 12 ans. Et au bout d'un an, il y a 10 échecs. Et voilà. Ce qui prouve que tous ces messieurs ne pensaient qu'à écrire leur bouquin et ils se foutaient complètement de ces gosses-là. Parce que c'est pas possible de jouer avec tous ces gosses avec autant de gens. Peut-être parce qu'il y avait autant de gens que les gosses se sont sentis des bêtes observées. En tout cas, là, il y a toujours, à la fin, quand on lit ces bouquins, on a envie de dégueuler. Et puis, deuxième chose horrible, c'est que c'est une transcription permanente en terminologie psychanalytique des constatations typiquement comportementalistes. Comment? C'est-à-dire qu'il décrit avec une minutie et une finesse vraiment très chouette tout ce que font ces gosses. Et puis plouf, aussitôt il les transcrit, mais c'est une transcription qui à mon avis est purement mécanique, il les transcrit en termes, espèce de terme patafreudien. Je dis patafreudien, c'est-à-dire le freudisme émasculé par les Américains, culturalistes, c'est la ich-psychologie, l'ego, et pour lui la théorie, c'est pas le surmoi, mais que, disons le moi fait. Vous connaissez tous la théorie du moi faible, du moi fort, ils sont comme ça parce qu'ils ont le moi faible et le traitement doit être le renforcement du moi. Je sais que je ne suis pas lacanien, vous me connaissez bien, mais je pense que sur ce plan-là, les critiques de Lacan n'ont pas de pertinence parce que la notion du désir de ces gosses, la notion de leur vrai inconscient était complètement évacuée. Et c'était une espèce de psychanalyse purement mécaniste, de psychotique, quoi, comme elle dirait. Je ne sais pas, il répétait ça d'une manière un peu comme un perroquet, quoi, il donnait une version psychanalytique, alors que le fond de sa pensée, le fond de sa méthodologie était très comportemental. En tout cas, des livres que je vous conseille, parce que ce n'est pas un livre à ne pas lire, mais je dis ce que j'en pense, mais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et ça vous montre d'une manière très fine comment ces gosses se comportent dans les institutions. Bon, ça fait mal, j'ai trop parlé. Sociopathe, il y a aussi l'autre mot sociopathe, c'est le même qui dit carrément. Mais le mot sociopathe.
Le mot qui a été modifié, avant on disait, avant on parlait des personnalités antisociales, ah, dans les dessins du jeu, et la dessin 3 dans les personnalités dissociales.
Ouais. Ah oui, je n'ai pas encore étudié dans les dessins 3 quelle est la terminologie à la mode chez les Ricains là. Parce que les Ricains, au moins, ils ont un avantage, c'est qu'ils nient toute structure. Ils ont le comportementalisme ouvert. Si vous voulez, j'ai horreur du dessin, mais il faut dire ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est qu'il est au moins apparemment pas trop mystifiable. Sa mystification est ailleurs. La mystification du dessin, c'est pouvoir, il prétend qu'on peut observer sans base idéologique. C'est-à-dire, il postule un observateur naïf. Alors qu'un observateur naïf, ça n'existe pas. Surtout en observation du comportement de nos proches, ça n'existe pas. Je crois que c'est là la mystification du dessin. Toi, c'est l'observateur naïf. Par contre, là où il n'est pas du tout antipathique, c'est qu'il fout en l'air toutes les patastructures et il dit ouvertement, il donne des diagnostics uniquement à base des comportements. Et il ne prétend nullement que c'est congénital, il ne prétend pas que c'est irréversible, il ne tire pas des conclusions comme André Dupré et toute la psychiatrie classique européenne.
Et par contre, le premier critère, il y a trois critères, hein, bon, et le premier, c'est de ne pas poser ces diagnostics avant l'âge de 18 ans.
Ça, c'est déjà très intelligent.
Le premier, et après, dans les critères B, il y a une dizaine de sous-critères, le trouble à l'âge scolaire, paysan, vol, violation, etc. Dans au moins 3 ou 4 présents, les critères C, en absence de schizophrénie, etc. Mais les premiers dits de tous, c'est.
Vous me faites un plaisir fou de me dire ça parce que moi je me bagarre contre les essais, mais je trouve que là ils sont géniaux parce qu'ils disent là, ils disent depuis 15 ans ou 20 ans en disant qu'il ne faut pas être psychopathe avant 18 ans. Alors je suis heureux de trouver ça dans les essais. Parce que quand je disais ça à la Salpêtrière il y a 18 ou 15 ans, tout le monde me traitait des gauchistes, des démagogues et tout ça. Ah, mais comment? C'était une phrase, dire ça pour les psychiatres de l'ancienne école des Salpêtrières, je ne dis pas pour du clocher aujourd'hui, bien sûr, mais pour des gens comme Michaud et autres, hier et tout, c'était un scandale gauchiste, politique et démagogique. Moi, je me rappelle quand je parlais de nos votes des victimes à la Salpêtrière à 20 ans, quand je disais qu'on ne peut pas les appeler psychopathes avant 18 ans, que c'est pas vrai, que c'est trop mobile et tout, ben, les gens se payaient de la gueule. Alors moi, ça me fait quand même une certaine satisfaction. Alors maintenant, il ne jure que par les dessins, toi le même, et ça me fait plaisir de le voir, ça me donne envie de relire les livres, parce que je n'ai pas lu encore ce chapitre-là.
C'est le premier critère.
Ben là-dessus, vous voyez, ça va tout à fait dans le style de ce que je vous dis là.
Vous avez bien compris, je crois qu'il dit qu'il faut que ça ait commencé avant 15 ans. Ils analysent la phénoménologie à l'offre, et c'est bien
de
commencer
tôt.
Mais non, quoi?
Impressionnant, c'est pas le monde.
Non, mais. Des
choses vraiment effectivement importantes.
C'est-à-dire, éviter qu'on lance les mots pour à tort et à travers.
Voilà. Ah. Et puis, effectivement, pas avoir ce
qu'on pas si bête que ça.
C'est vrai que.
Donc, ils sont d'accord avec moi là-dessus qu'il ne faut pas dire psychopathe avant 18 ans. Voilà, c'est exactement
mais,
ça. Alors que toute la psychiatrie française dit psychopathe dès l'âge de 9 ans. Mon maître Michaud, que les diables l'emportent son âme. Il disait qu'une gamine de 12 ans, elle est belle, elle est bête, elle n'a pas de moralité, sera putain. Et c'était la verdict de la science. Hein. Il croyait faire la science en disant ça. À 12 ans, c'était le diagnostic de psychopathie chez une fille, donc elle ne sera pas voleuse, elle ne sera pas heureuse, elle sera putain. 12 ans, même 11 ans, je me rappelle, je l'avais mis que ça pour une gamine de 11 ans. Et c'était pas dit pour rire, hein. C'était dit avec tout le poids de la Salpêtrière, de la science et du diagnostic, du pouvoir prédictif de la notion de Dupré de la psychopathie congénitale. Parce que Michaud était un élève de Dupré, il ne jouait que par Dupré. Alors, donc je pense que c'est pas du tout ce que vous me racontez là, c'est pas du tout bizarre, c'est pas du tout anodin ni contingent, et ça va pas du tout de soi oser dire qu'on n'a pas le droit de parler de psychopathie, de dissocialité avant l'âge de 18 ans. Moi je trouve ça vraiment très très positif de la part des Américains. En fait, ils n'appliquent pas dans les prisons pour gauche, ils sont encore plus violents qu'enfants. Mais c'est déjà bien que ce soit dit comme ça. Parce que ça ne correspond, correspond pas du tout à ce que pensent beaucoup encore d'éducateurs, de juges, qui croient le jeu, et quand ils disent pour des gosses de 14 ans, on ne peut rien en faire et tout, bah.
Il n'y a plus de critères pour le comportement à 14 ans,
ah, bien sûr, bien sûr.
Le temps, comment on dit, le conditionnement,
L'idée vous apportera la semaine pour le date, il y a combien de pages? 2 pages, 3 pages?
Prochaine pour le porte.
Non, mais ce que vous demandez, si vous avez une photocopieuse dans votre service, c'est d'en faire une quinzaine de photocopies,
Je suis nouveau dans le service et je n'ai pas
de photocopies. Alors je les ferai moi.
Vous trouvez ça quand même, le dessin bien?
Non, je pourrais les faire parce que j'ai les dessins à mon rouge, mais il faudrait que je trouve les pages. Mais tu y penseras, tu demanderas à Nadine ce que je ne ferai pas moi. Alors on pourrait les distribuer à vous, on pourrait les regarder un peu en temps pour l'avoir dans 15 jours. Tu trouveras la page où c'est.